Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Si vous voulez bien, nous allons commencer cette séance du conseil municipal. Puisque nous avons le quorum et nous avons de la même manière un certain nombre de représentations. Nous avons les pouvoirs de Madame Trévidi à Béatrice Roux, de Vincent Pouillaud à Dominique Rouillère, de Morgane Chapeau à Jean-Marc Petit, de Patrick Grossetti à Gilles Bernard, de Jean-Louis Ribas à Luc Pénard. Je demanderai donc à Monsieur Faure de bien vouloir assurer le secrétariat de la séance. Et donc je passe tout de suite à l'approbation du compte rendu de la séance du 20 avril 2018 qui vous a été transmis le 27 avril et affiché. Y a-t-il des remarques particulières?
Oui, oui. Donc, effectivement, donc, pour revenir à ce conseil, nous n'approuverons pas bien entendu ce compte rendu. Vous avez bien noté donc ton attitude et posture, je dirais, un petit peu autocratique, de ne pas vouloir ouvrir les débats. Hein. Donc, nous te rappelons que c'est quand même toi qui fixes l'heure, la date et le jour. Hein. Donc, devant ce mépris de la fonction municipale, surtout celle exercée par la minorité, je me suis renseigné, comme d'habitude, pour essayer quand même de faire valoir nos droits. Et il s'avère que, dans le code général des collectivités territoriales, il est écrit « Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. » Voilà. Le règlement intérieur fixe la fréquence, etc., etc., quand il y en a. Il s'avère qu'il n'y en a pas. Donc, ce jour, pour moi, cette position lors du dernier conseil municipal est illégale, hein, comme je le dis. Donc, j'invite la presse à relater quand même cet échange et cette illégalité, hein, même si tu vas me dire que c'est faux, grotesque, etc., etc., et que j'y comprends rien. Bon, ça, c'est déjà du passé, je l'ai déjà entendu. Nous réservons, bien entendu, le droit d'alerter le préfet qui pourrait faire un rappel à l'ordre, hein, au respect du code général des collectivités territoriales. Et éventuellement, mais bon, on ne va pas passer notre temps à ça, c'est saisir le tribunal administratif qui pourrait invalider les deux délibérations donc de la dernière fois. Voilà. Ensuite, sache que pour l'avenir, nous avons eu des questions par le passé, nous en aurons à l'avenir. Je pense que ça fait partie de nos missions, hein, même d'élus de la minorité. Nous sommes des élus responsables et s'intéresser aux affaires de la commune, pour nous, c'est quelque chose de tout à fait normal. Voilà, donc nous n'approuverons pas, bien entendu, le compte-rendu du conseil précédent. Voilà.
Très bien. Je vous remercie de cette intervention. Et, donc je soumets au voix de ceux qui souhaitent l'approuver. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie donc de cette unanimité. Je voudrais tout de même faire le recensement des personnes qui sont sur votre ligne de conduite de manière à ne pas les marquer dans les approuvants. Madame, alors donc je note, ne participe pas au vote Madame Malher, Madame Perrin.
Comment ne participe pas au vote? Nous n'approuvons pas.
Vous n'approuvez pas. Vous n'approuvez pas, vous ne participez pas au vote.
Non, nous n'approuvons pas.
On est contre. Vous êtes contre. Donc, nous sommes contre. Donc, alors, Madame Malher, Madame Perrin, Monsieur Bernard, Monsieur Constant.
J'ai le pouvoir de Patrick.
Et les Monsieur Rossetti, représentés par Monsieur Bernard. Je vous remercie. Donc, pour tous les autres, c'est une unanimité. Premier point, règlement intérieur de la piscine municipale La Pinède, sera présenté par Madame Leclerc.
Oui. Je demandais si je dois tout lire. C'est la On a déjà approuvé un règlement intérieur en 2012, mais enfin je peux le relire, mais c'était tellement long que c'est à peu près les mêmes termes. Hein. Juste les points. Alors, par délibération 2012-041, date du 2 juillet 2012, le règlement intérieur de la piscine municipale a été approuvé. À compter de l'année 2018, les campeurs pourront bénéficier des accès au bassin au cours de la première quinzaine de juin et durant le mois de septembre. Par conséquent, deux périodes distinctes régiront l'accès aux bassins municipaux. Période ouverte au public avec accès payant, article L322-7 du Code du sport, prévoit que toute baignade et piscine d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée de façon constante par du personnel qualifié, titulaire d'un diplôme délivré par l'État et défini par voie réglementaire. Période privative à usage collectif, accès limité à la clientèle propre du camping. La loi 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines et l'arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif, instruction numéro 09-092-JS du 22 juillet 2009 portant rappel de la réglementation applicable aux piscines à usage collectif n'impose pas de mesures de surveillance. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code du sport, considérant la nécessité de réglementer le fonctionnement de la piscine municipale dans l'intérêt du bon ordre, de l'hygiène et de la sécurité publique, vu le projet de règlement intérieur de la piscine municipale, il est demandé au Conseil municipal d'approuver le règlement intérieur de la piscine municipale, d'autoriser M. le maire ou tout adjoint faisant fonction à prendre les mesures d'application afférentes.
Très bien. Des questions particulières, monsieur?
Oui, des questions particulières. Moi, je m'interroge. On est on privatise la piscine pour les campeurs 15 jours en juin et le mois de septembre. Quid des habitants de Bédouin et des Boudinets qui ne pourront pas donc accéder à cette piscine pendant cette période-là? Je comprends aussi.
Hein, la question,
qu'il faut une surveillance, on ouvre au public.
On n'a pas réduit la
Mais je m'interroge, je veux dire, les Bédouinés vont voir la piscine ouverte pour les campeurs, et pour les touristes, et pas pour ses habitants. Voilà, c'est juste un questionnement.
Oui, on va tenter. C'est une demande des campeurs.
Depuis longtemps, tu l'avais déjà dit la dernière fois, ça serait bien que la piscine soit ouverte sur ces périodes-là. Mais...
Pardon, tu viens de dire que c'est une demande des campeurs.
Oui, c'est un souhait des campeurs. Depuis plusieurs années, c'est un souhait que notre piscine soit ouverte.
Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Soit ouverte avant et fermée plus tard. C'est ça. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, le souci, c'est que la piscine... C'est une piscine municipale. Le fonctionnement est quand même financé par les impôts des Bédouinés. Il y a quand même un souci.
Alors, le coût, je peux pas.
On ne parle pas du coût. C'est sûr qu'il y a un coût, c'est pour cette raison que vous l'avez fait.
Il n'y a pas de fonctionnement particulier, puisqu'elle est déjà remplie, la piscine. Il n'y a pas d'entrée, donc il n'y a pas de personnel à l'entrée. Il n'y a pas de personnel sur les bassins.
On peut la laisser ouverte toute l'année, alors, si on n'a pas de personnel.
Oui, pourquoi
non,
pas.
Non, il ne faut pas exagérer. Il y a quand même il y a un service public, il y a d'autres services dans la commune. Tous les habitants du village financent ces services par leur impôt, chacun selon leurs moyens, selon leur imposition. Ça, il n'y a pas de souci. Et demain, vous allez expliquer aux gens de Bédouin que la piscine, pendant un mois, elle va être ouverte et qu'il n'y a que les campeurs qui vont pouvoir y accéder. Mmh. Vous avez quand même été élu, et nous aussi, par les habitants de Bédouin. Mmh. Vous n'avez pas été élu par les Belges ou les Hollandais qui viennent passer 15 jours chez nous. Oui. Non, mais je veux dire, moi, c'est la question que je pose.
Oui. C'est vrai qu'on peut se poser la réflexion. Moi, effectivement, j'avais pas eu cette vision.
Cette lecture-là.
Au début, je me suis dit, c'est des raisons économiques, ok, mais après, c'est vrai que...
C'est même pas une raison économique.
Oui, non, mais c'est pas une raison économique.
C'est un service supplémentaire.
Oui, oui.
On perd énormément de campeurs Jusque-là,
c'est une bonne idée.
Voilà. C'est pas ça. C'est effectivement la réflexion de Patrick de se dire alors, est-ce qu'on a pesé effectivement le coût que ça allait engendrer si on faisait cette extension également pour les habitants du village qui c'est effectivement contribuent. Voilà. C'est vrai que la réflexion. Moi, je ne me l'étais pas faite. Hein.
Pour être occupé de la piscine il y a déjà plusieurs années, on avait essayé.
D'accord.
On avait essayé de l'ouvrir à tout le monde, seulement 15 jours, hein, en septembre, avec Maître Nageur, évidemment. Ça avait été un désastre. Le village.
D'accord.
Maintenant, on est tributaire du temps. L'année dernière, on a eu des demandes des campeurs en disant c'est dommage, on a une belle piscine, surtout qu'elle est remplie, ça fait envie, etc. Bon, cette année, s'il fait 8 jours de Mistral, on n'aura ni campeurs, ni gens.
Non, mais ça,
voilà.
C'était simplement, effectivement, les réflexions.
Mais oui, bien sûr.
Moi aussi, je me
bien
suis
sûr.
Dit, c'est vrai que.
Alors, on n'aura peut-être pas des gens vraiment de. On aura quelques dames le matin, on aura des mamans pour le week-end. C'est vrai, on s'est posé la question, mais on a dit que cette année, on allait tenter comme ça, c'est approuvé.
On est dans une première étape sur une privatisation, alors, ou pas?
Ah non,
alors,
pas du tout.
C'est une question.
Vous me demandez d'une façon régulière deux
pas
choses. Vous nous faites remarquer d'une manière récurrente que les comptes de la piscine ne s'équilibrent pas à des moments donnés. Ce n'est pas moi qui ai prononcé le terme de savoir est-ce qu'il faut faire une délégation de service. Ça, c'est le premier point. Donc, on essaie justement d'optimiser la chose. Merci pour vos réflexions, votre contribution. D'autre part, le financement de la piscine ne se fait pas par l'impôt des habitants de Bédoin, puisque...
Ça ne fait pas partie du budget,
soyons clairs. Nous avons un complexe piscine-camping... Donc, qui s'équilibre très, très mal en fonction de ce que vient de nous dire Madame Leclerc, qui s'équilibre de façon très laborieuse, disons-le plutôt. Mais donc, on ne pioche pas directement dans l'impôt. Ensuite, écoutez, voilà, on a entendu ce que vous nous disiez. Bon, effectivement, c'est une réflexion que l'on s'est faite aussi. Mais quelle que soit la solution, je pense que l'on nous le reprochera. N'oubliez pas, mais vous le savez très bien, vous n'êtes pas aussi naïf que ce que vous voulez bien le faire croire, que pour faire fonctionner une piscine qui est ouverte au public, eh bien, il est nécessaire que l'on ait du personnel. Ce personnel, déjà, il y a deux paramètres. Le premier paramètre, c'est qu'il est difficile de le trouver quand on n'est pas véritablement sur la période du mois de juillet et du mois d'août. Je ne sais même pas où en est le recrutement, Madame Leclerc.
Semblerait qu'on ait en fait un maître nageur pour les 15 jours où c'est ouvert au public, à tout le monde, aux habitants de Bédoin, de juin. Je voudrais ajouter à ce que dit Monsieur le maire, vous connaissez les comptes de la commune puisque vous êtes très, très intéressé par ce qui se passe dans nos budgets, c'est normal. Vous savez que le coût du personnel. Le coût du personnel pour faire tourner la piscine 2 mois et demi, c'est-à-dire maître nageur, surveillant de baignade, le personnel à l'accueil, coûte plus cher que ce que nous encaissons pendant toute la saison. Donc on reste toujours sur le côté. Donc c'est là peut-être qu'il faudra se poser la question un jour. C'est beaucoup plus important. Ça coûte plus cher sur le budget, le personnel qui est recruté uniquement pour la piscine que l'encaissement des entrées de piscine ouvert à la population. C'est normal, on est un service public.
Bon, écoute-moi, on est d'accord, mais ce n'est pas une raison principale. Pour moi, ce n'est pas une raison valable de dire que ça coûte plus cher, donc on ne fait pas.
Non,
on est bien sur la question de service au public. En juin, en septembre, il peut y avoir des scolaires. Est-ce que vous y avez réfléchi sur ces périodes-là?
Ils sont quand même à l'école.
Pour l'apprentissage de la natation, pour...
Que ça fonctionne comme ça. Non, mais ça ne se décrète pas de...
Je sais bien que ça ne se décrète pas comme ça.
Donc actuellement, pour la saison qui arrive, nous allons faire cette expérience pour laquelle, donc, je vous demande ou non voit pas probation.
Je voudrais rajouter un mot. Il faut quand même savoir si on fait une politique pour des vacanciers pendant un mois ou si on fait une politique pour les habitants du village. C'est tout. C'est la seule question que je pose. J'ai mon avis sur la question.
Il faut rester logique.
Il faut savoir si c'est les vacanciers qui commandent l'ouverture de la piscine. Non, quand vous allez dire aux gens de Bédouin que la piscine est ouverte, le week-end du 10 juin, par exemple, il fait très beau, une famille va mener ses enfants à la piscine, vous allez leur dire non.
C'est une interprétation de ta part.
Pour moi, ce n'est pas acceptable.
Après, si pour vous, majorité, ça l'est.
Eh bien, vous votez. Mais pour moi, ça ne l'est pas.
C'est une interprétation de ta part.
C'est une piscine municipale.
C'est une réflexion.
C'est une piscine municipale.
On a entendu, c'est enregistré. Je le soumets donc au roi. Y a-t-il des oppositions ? 6. Donc, ils sont Mme Malherbe, Mme Perrin, M. Bernard, M. Constant. Donc, le pouvoir de M. Rossetti à M. Bernard.
M. Campon. Des abstentions. Une abstention.
Madame Massenmes. Donc, approbation. Le reste de l'effectif. Donc, nous sommes 6 contre une abstention. Et donc. Nous sommes donc 15 pour. Délégation de services publics pour la gestion d'une fourrière automobile, lancement de la procédure de mise en concurrence dans le cadre d'une concession de services. Alors là aussi, c'est Michel Dell'Innocenti qui va nous en parler.
Je fais un résumé ou...
Je vous propose de faire un résumé.
Parce qu'il y en a 3 pages.
Pour maîtriser ce.
Donc, par délibération 2015-053 du 26 mai 2015, le conseil municipal a décidé de confier à la société carrosserie Boyer 1270 avenue John Fitzgerald Kennedy à Carpentras la gestion du service public de fourrière automobile pour une durée de 3 ans. Monsieur le maire rappelle que la rémunération du délégataire est assurée par la perception des frais d'enlèvement et de garde appelée aux propriétaires des véhicules en infraction, et précise que les tarifs de frais en fourrière automobile sont fixés par l'arrêté du 14-11-2001, modifié, fixant les tarifs maximaux des frais de fourrière pour automobile. Donc, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est de renouveler ce contrat avec la carrosserie Boyer sur... pour qu'on puisse continuer, puisque nous avons quand même des soucis les jours de marché. De la période 2015 à 2017, nous avons enlevé quand même 55 véhicules. Donc ce que fait la police, c'est quand ils connaissent les véhicules, ils vont quand même essayer de frapper à la porte des riverains pour qu'ils enlèvent leur véhicule. Mais parfois, bon, ben, on ne sait pas qui sont les véhicules. Et dans ces 55 véhicules enlevés, il y a eu 4 véhicules qui ont été détruits, puisque bon... Ils étaient à l'abandon et qui étaient sur place et qui ne bougeaient pas. Quoi. Donc voilà, je pense que ces chiffres sont intéressants. Donc, en conclusion, il est demandé au conseil municipal d'approuver le principe de renouvellement de la concession de services pour la gestion de la fourrière pour une durée de 5 ans, d'approuver les orientations principales et les caractéristiques de la délégation telles que définies dans le cahier de charge que j'ai là. Vous pouvez le consulter si vous voulez, d'approuver le règlement de consultation, d'autoriser Monsieur le maire à engager une procédure de concession de services et à lancer l'avis d'appel public à la concurrence tel que défini à l'ordonnance numéro 2016-65 du 29 janvier 2016 et au décret de 2016-86 du 1er février 2016 relatif au contrat de concession qui conduira à la désignation de l'exploitant de la fourrière automobile et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à cette affaire.
Très bien. Une question particulière sur ce point. Je le soumets donc à vos voix. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité. Merci. Point numéro 3. Création des services publics de défense extérieure contre les incendies. Monsieur Michel Dell'Innocenti, à vous à nouveau.
On est reparti. Alors, monsieur le maire expose à l'Assemblée délibérante les dispositions du décret de 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie DECI, qui fixe les règles relatives aux procédures de création, d'aménagement, d'entretien et de vérification des points d'eau servant à l'alimentation des moyens de lutte contre l'incendie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce sujet? C'est qu'on a eu une réunion avec le SDIS d'Avignon et le sous-préfet. On devait vérifier, faire des vérifications sur les pays, c'est-à-dire les bornes d'incendie, toutes les années. Alors que maintenant, on peut les faire que tous les deux ans. Donc, dans cette procédure... il y a la grande visite qu'on fait tous les deux ans et une visite visuelle. Donc, on a gagné quand même un peu de l'argent là-dessus parce que ça représentait 6 000 euros par an, grosso modo. Donc là, on va tomber à moitié prix, c'est-à-dire à 3 000 et quelques euros. Donc, si vous voulez, je peux vous donner les tarifs des grandes visites par borne, 40 euros hors taxe. Et les visites visuelles uniquement sont de 30 euros hors taxe par an. Donc, on fait une année la grande visite et une année le visuel.
La grande visite, il y a les tests ou quoi ?
Voilà, il y a les tests, il y a les mises sous pression, oui. Alors que le visuel, après, c'est regarder l'état un peu de la borne et surtout pour faire les peintures lorsque c'est nécessaire, mettre les trucs qui vont bien. Quoi. Donc voilà, c'est un résumé. Alors, il est demandé au conseil municipal de créer le service public de défense extérieure contre l'incendie, d'autoriser M. le maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents afférents à cette décision.
Et j'ajouterai que l'an dernier, compte tenu du fait qu'on était sous une contrainte d'économie d'eau importante par rapport à la sécheresse, les contrôles ont été décalés dans le temps et n'ont été faits qu'en fin d'année. Puisqu'on était sur c'était le point de départ du véritable contrôle, où on prend effectivement les pressions, c'est toute une procédure longue, alors que quand le SDIS fera le contrôle visuel, ce sera effectivement pour vérifier que les poteaux sont bien complets, parce qu'on continue à se faire faucher les couvercles, on n'ignorait pas, pour les poteaux qu'il y en a encore, et on a besoin d'avoir un repérage qui permette justement d'orienter les véhicules au cas où il y aurait des interventions de nuit ou après. Bien, des questions particulières là-dessus?
Il y en a combien de poteaux les amis?
110. Eh oui.
Voilà. Non, mais simplement, mais bon, ça, c'est une décision qui ne nous appartient pas, mais 110 poteaux, 10 euros d'écart, ça, en fait, au lieu de payer 80, si tu faisais un complet toutes les années, ou tous les deux ans, bien entendu, tu gagnes 10 euros, tu gagnes 1100 euros, et tu fais pas de contrôle, et je veux dire, après, ils ont dû peser le risque, mais je trouve ça un peu...
On a quand même le 10 derrière, donc oui, ils attendent le rapport de chaque année des prestataires de services.
Encore, ça aurait été à la limite 1 sur 2, mais le visuel à 30 euros, pour gagner 10 euros sur un poteau, tu prends des risques, je veux dire.
Voir s'il est à la bonne couleur.
C'est peut-être pas nécessaire de faire toutes les années.
C'est peut-être ça. Ben à ce moment-là, le visuel.
Parce que on a eu un rapport de pompiers quand même du SDIS, donc ils ont.
C'était simplement.
On a beaucoup discuté là-dessus, ils nous ont dit, bon. De faire tous les deux ans, c'est suffisant. Quoi. C'est pas la peine de charger les communes en plus là-dessus. Quoi. Okay. Donc ils en sont conscients puisqu'ils reçoivent le rapport chaque année.
D'autres interventions? Bien, je le soumets donc au voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Fonds de concours 2018, monsieur Fort, s'il vous plaît.
Donc, monsieur le maire rappelle au conseil que la CAF a modifié en 2010 son système de reversement financier aux communes de l'intercommunalité. Cette modification portait initialement sur deux volets, la suppression de l'ancienne dotation de voirie, remplacée par un nouveau système comprenant d'une part la convention de mise à disposition du service de voirie intercommunale avec remboursement des frais à la CAF, et d'autre part l'attribution d'un fonds de concours équivalent au montant de l'ancienne dotation de voirie. Les montants précédemment versés par la COV à la commune sur l'enveloppe de la dotation de solidarité communautaire sont désormais attribués sous forme de fonds de concours. Ainsi, au titre de l'année 2018, l'enveloppe allouée par la COV à la commune s'élève à 42 398 euros pour le fonds de concours ex-dotation de voirie et 106 832 euros pour le fonds de concours ex-DSC. Total donc, fonds de concours 149 230. Soit par rapport à 2017, une augmentation de 1,28%. Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur l'affectation de ce fonds de concours destiné à financer les dépenses de fonctionnement ou d'investissement liées à des équipements communaux inscrites au budget primitif 2018. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à percevoir pour la commune et au titre de l'exercice 2018 l'enveloppe totale allouée par la COV sous forme d'un fonds de concours s'élevant à 149 230 euros et à signer toute pièce à part.
Eh bien, vous avez dans la pochette le détail de ces fonds de concours. Vous savez que traditionnellement on les affecte aux consommations. C'est-à-dire l'eau, l'électricité, l'assainissement, l'entretien de bâtiment, etc., etc. Pour un montant, c'est un chiffre aussi qui est intéressant, de 298 460 euros, pris en charge moitié-moitié par ce fonds de concours et par la commune sur notre budget propre. Voilà, une pratique habituelle. Des questions particulières là-dessus ? Bien, je le soumets donc au voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci pour cette unanimité. Point numéro 5, modification des tarifs de location du centre culturel Hélène Adam. Monsieur Fort, toujours s'il vous plaît.
D'accord. Donc, il y a une délibération du 10 novembre 2015, à l'époque qui fixait le tarif d'occupation du centre culturel et de la salle de l'Oustaou d'analyse. Ce tarif s'était fait pour essentiellement la Sporta, puisqu'elle était le seul organisateur de course à utiliser le centre Hélène Adam pendant plusieurs jours. Et on s'est rendu compte que depuis, d'autres organisateurs utilisaient les locaux, si bien que nous avons dû affiner et modifier les tarifs. Donc il vous est proposé comme tarif pour un jour 600 euros, deux jours 1200, trois jours 1500 et quatre jours 2000. Il est demandé au conseil d'approuver ces tarifs et de prévoir les crédits correspondants au budget principal.
Voilà, ce jour on avait seulement un tarif, donc on a essayé d'affiner le plus possible. Voilà, donc il s'agit bien entendu de la mise à disposition des locaux. L'occupation d'appoint pour une part de la place n'est pas comprise dans ces tarifs. Et des remarques particulières?
Est-ce que ça s'articule bien avec l'occupation des locaux par les associations de Bédoué? Jusque-là, avec la Sporta, ça s'articulait à peu près, mais oui. Si on va sur la haute route, sur 3 jours, sur 4 jours, ça veut dire que le centre culturel va être occupé, oui. Les salles, par et les associations qui, sur les périodes juin, utilisent beaucoup ces locaux-là, en septembre aussi.
C'est plutôt octobre.
C'est une question de planning. La haute route, c'est vrai, c'est octobre, mais bon.
Quand on regarde le calendrier, on s'aperçoit qu'on n'a pas connu de véritables problèmes, et le nombre de dimanches de week-end étant pratiquement défini dans l'année, et je ne vois pas, moi, de progression, jusqu'à maintenant, on s'en est bien tiré aussi.
C'était juste une remarque sur... Ouais. Attention, voilà, ne pas proposer tous ces locaux à ces organisateurs-là, au détriment peut-être des fois de nos associations locales.
Non, nos associations sont de toute façon prioritaires.
D'accord,
vous le savez. Bon, mais après, maintenant, le fait d'être prioritaire, on n'empêche pas certaines souplesses et adaptations des uns et des autres. Donc je le soumets à vos suffrages. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. l'aire piétonne derrière Saint-Jean, mise en place du tarif de remplacement des télécommandes. Michel de l'Innocenti, à nouveau.
Alors, par arrêté municipal de 2018-144, en date du 9 avril 2018, Monsieur le maire a décidé de sécuriser et réglementer la circulation et le stationnement des véhicules chemin derrière Saint-Jean au profit d'une aire piétonne matérialisée par la pose de trois bornes escamotables. Les riverains et ayants droit ont été équipés à titre gracieux et individuel de badges permettant l'accès à l'aire piétonne en dehors des horaires réglementés. En cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-restitution, l'article 11 de l'arrêté subvisé prévoit le remplacement du matériel aux frais du demandeur. Vu le code général des collectivités territoriales, vu le devis de remplacement présenté par la société BES, fixant à 24 euros le prix de vente de la télécommande, il est demandé au conseil municipal de fixer le point d'acquisition de télécommande d'accès riverain à 24 euros l'unité, correspondant au prix d'achat du matériel par la commune. De dire que ce tarif est susceptible d'évoluer en fonction de la révision de son tarif par le fournisseur et qu'un titre de recette sera émis à l'article 77-18.
C'est bien.
Du coup, si tu ta télécommande est en panne, tu la payes.
Alors, non, c'est ce qui se passe, c'est que nous avons fait un règlement. On a demandé à chaque riverain de nous fournir des cartes grises de voiture. Ah oui, et on a donné une télécommande par carte grise de voiture. C'est-à-dire que si tu as 4 automobiles, tu auras 4 télécommandes. La télécommande, ton mampan, ça peut être la pile. Tu vas à la librairie, tu changes ta pile. Maintenant, si jamais elle est perdue... Volée, quand on dit volée...
Vol, je peux comprendre, mais perte, détérioration, elle se casse... On a ça dans notre boulot, des télécommandes pour ouvrir le portail, bon, mais c'est sûr que voilà.
Non, ça se casse jamais, ça tombe pas en panne.
Ça tombe rarement en panne, on est d'accord.
Donc il fallait fixer nos règles. Alors c'est vrai pour.
Ben, moi je la trouve bon. Voilà, tu subis un petit peu les riverains là parce qu'ils n'ont pas choisi d'avoir ce système là. Du coup on va leur faire payer les télécommandes.
Je dirais qu'on n'a pas trop, on n'a pas pratiquement pas de retour négatif. Par contre, c'est qu'on a quand même fourni
cinquantaine. Je suis persuadé que tous les riverains subissent. Parce qu'on a toujours, le paradoxe, c'est la même chose que tout à l'heure. On a des riverains qui se plaignent du bruit de la circulation et qui se tombent bien aise. N'oubliez pas quand même que le premier point, c'est la sécurité de nos amis. Et que malgré un essai de réglementation où on comptait sur le sens civique de tous et de chacun, et une quête souvent sur le course, vous avez pu voir que on avait quand même des mises en danger bien évidentes. Donc ça, ça a quand même été le premier point. Ensuite, bien entendu, les riverains ont été consultés. On a essayé de faire tous les aménagements possibles et imaginables. Puis là, bon, c'est un point de détail. 24 euros. Et après, à un moment donné, il faut que chacun soit un peu responsable. On ne va pas remplacer gratuitement tout ce qui est perdu ou autre.
Voilà. Pour info, on en a distribué 50 quand même. Donc on n'a pas regardé, on n'a pas lésiné, comme on dit. On a donné les télécommandes parce que c'est vrai qu'indirectement il y a des contraintes. Mais bon, après, il ne faut pas qu'on tombe non plus dans les abus que j'ai perdu ma télécommande, vite je viens à la mairie, on va chercher
une autre.
Voilà, c'est ça qu'on veut éviter. Après, on se refait un petit stock quand même pour pouvoir répondre aux demandes, si ça arrivait. Après, on pourra regarder cas par cas aussi, attendre pas non plus. Mais il faut quand même qu'on mette en règlement, que les gens soient conscients qu'ils fassent attention au matériel qu'on leur donne.
Il ne faut pas la perdre.
Très bien. Écoutez, on discute peut-être pas davantage. On se met au voir. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions. Merci pour cette approbation à l'unanimité de cette mise en place du tarif de remplacement des télécommandes. L'accueil de loisirs sans hébergement, tarif des séjours et nuitées pour l'été 2018.
Oui. Donc la LSH, les aventuriers du Ventoux de Bédouin, propose durant les vacances scolaires de 2018 pour l'été un programme diversifié d'activités. Donc pour certaines, une participation est demandée aux familles. Donc il est proposé au conseil municipal de valider le principe de financement selon les modalités suivantes. Donc je vous rappelle que nous avons trois conseillers familiaux et nous avons également un tarif pour les enfants de communes de l'extérieur. Alors, la part de la famille représente 40% du coût de la prestation et la part de la commune 60% du coût de la prestation plus le salaire des animateurs pour le premier coefficient, donc inférieur à 650 euros. Pour le deuxième coefficient, on a une part famille qui reste de 50% du coût de la prestation et 50% à charge de la commune plus également le salaire des animateurs. Pour le troisième coefficient, les familles prennent 60% du coût de la prestation et la commune 40% du coût de la prestation ainsi que le salaire des animateurs. Et enfin, pour les enfants de l'extérieur, les familles assument 100% du coût de la prestation et la commune prend en charge le salaire des animateurs. Donc on a également des précisions sur les tarifs et les conditions d'annulation des séjours et des nuitées. Donc vous avez des séjours courts. Alors camping du 9 au 13 juillet. C'est toujours pareil en fonction des trois coefficients familiaux et des enfants hors commune. Vous avez pour le premier coefficient familial une part de 60% à charge des familles.
60 euros.
Oui, 60 euros, oui, c'est pas 60%, 60 euros. Pour le coefficient numéro 2, vous avez 75 euros. Donc ça c'est la part communale, excusez-moi, communale, 60 euros pour le premier coefficient, 75 pour le deuxième, 90 euros pour le troisième coefficient, et les enfants hors commune, ce sera 150 euros. C'est limité en nombre de places à 8 enfants, et la tranche d'âge est de 11 à 14 ans. On demande un acompte aux parents, donc pour le premier coefficient, on demandera 24 euros sur les 60, le deuxième coefficient, 30 euros sur les 75 de coût. Et sur le troisième coefficient, on demandera 36 euros d'acompte et hors commune, les familles verseront 60 euros d'acompte. Et nous nous réservons le droit d'annuler le séjour si l'effectif est inférieur à 5 enfants à jour, enfin départ moins 15 jours de date. Voilà. Ensuite, on a les séjours courts. Alors cette année, donc les enfants partiront à la mer, dans l'Hérault. Donc c'est un accueil en tente sur des planchers, avec des lits de camp et une restauration sur place. Et ils s'en iront également à la ferme du Chambon-sur-Lignon du 16 au 20 juillet. Pour les séjours plus courts, donc il y en a deux de prévus, un du 23 au 25 juillet à la ferme de l'Oiselier à Sarrien et une simple nuitée au Moustier qui se fera une fois par quinzaine, c'est-à-dire qu'il y aura quatre nuitées dans l'été. Donc pour le premier coefficient, pour les séjours courts, le coût s'élève à 60 euros, avec un acompte demandé de 24. Pour le deuxième coefficient, le coût s'élève à 75 euros, avec un acompte demandé de 30 euros. Le coefficient numéro 3, on a un coût de 90 euros pour un acompte de 36 euros. Et hors commune, les familles s'acquitteront de 150 euros, avec un acompte de 60 euros pour la ferme de l'Oiselier. Nombre de places limité à 12 et la tranche d'âge est de 6 à 8 ans. Et pour le Moustier, bon, les frais sont évidemment moins importants. Il en coûtera pour le premier coefficient 4 euros plus les frais de séjour normaux à la LSH, qui sont de 7,50 euros actuellement. Pour le coefficient numéro 2, il en coûtera 5 euros pour la nuitée plus la journée de la LSH, qui est de 8,50 euros. Pour la tranche numéro 3, il en coûtera 6 euros pour la nuit et la journée de la LSH, qui est de 9 euros. Et pour les enfants extérieurs à la commune, il faudra qu'ils s'acquittent de 10 euros pour la nuit et les frais de l'ASH, ils sont, en fonction des coefficients, de 9,50. Non, pas 9,50. 11. Le maximum, 11 euros. Ah oui, on a généralisé. Voilà. Donc voilà. La nuitée au Moustier, bon, ben, l'an dernier, ça n'avait pas eu un très très gros succès parce qu'on n'a eu que 5 enfants, je crois. Mais par contre, le petit déjeuner est offert aux parents, donc les enfants peuvent le lendemain matin se réveiller, les parents sont là, ça va changer un petit peu. Donc ensuite, on a revu un peu les conditions de réservation. Celle-ci est effective si le dossier d'inscription est complet et la famille est à jour de ses paiements. Et la réservation est effective aussi si on a reçu le versement d'un acompte correspondant à 40% du coût facturé. pour ce qui est des séjours et courts et les séjours normaux, plus longs, hors les nuitées, la collectivité ne procédera à aucun remboursement en cas d'annulation tardive, c'est-à-dire 10 jours avant le séjour, ou en cas de retour prématuré d'un enfant, sauf obligation médicale, auquel cas le remboursement interviendra au prorata de la durée du séjour restant à effectuer. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver ces tarifs et les modalités de financement des activités, de dire que ces recettes seront encaissées par la régie de recettes du pôle enfance et jeunesse. Et c'était.
Bien. Merci pour tous ces détails. C'est difficile à suivre quand on n'a pas le texte sous les yeux. Y a-t-il des remarques particulières ?
Oh, juste, je me félicite qu'on ait pu maintenir ces tarifs aussi attractifs pour des séjours de ce type-là. Voilà, c'est pour, connaissant par ailleurs des séjours, des prix qui sont beaucoup plus importants. Voilà.
Oui. Merci. Donc je soumets aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie pour cette unanimité. Nous passons au point suivant, alors, pour lequel je vais demander votre indulgence, qui est la convention d'objectifs et de financement avec la caisse d'allocation familiale de Vaucluse pour l'accueil de loisirs péri- et extrascolaires. Eh bien, le texte est proportionnel à la longueur du titre, dont nous en avons 2 pages et demie. Madame Roux, essayez de nous en faire un résumé succinct. C'est un document, on va dire, c'est un document standard, classique.
Qu'est-ce que...
Donc, il intervient sur... Il parle de l'accueil de loisirs périscolaires, de loisirs extrascolaires, qui parle de la prestation de services, du mode de calcul, des heures, du nombre de prestations de services, du mode de calcul. Est-ce que vous voulez des détails là-dessus ?
Non, mais par contre, une réflexion, les délibérations, bon, les 3/4 du temps ne sont pas vues en amitié, ça ne nous gêne pas forcément, puisqu'on les a sous les yeux. Par contre, le public qui est là ne les a pas. Est-ce que ça ne serait pas possible de distribuer quelques exemplaires pour voir, tout simplement, quoi. Parce que nous ne sommes pas vus en entier. On comprend que c'est long, que c'est fastidieux, que c'est rébarbatif. Mais voilà, c'est tout, tout simplement. Après, je ne sais pas si c'est dans les règles ou pas. Hein. C'est pour vous éviter de tout lire tout le temps.
L'idéal serait de pouvoir faire une projection. On en parlait encore cet après-midi avec madame.
Après, c'est pour que tout le monde soit au courant de ce qui se vote. C'est tout, tout simplement. Oui, c'est pas pour une fois, c'est pas pour vous embêter.
Oui. Voilà, on le fait pour le budget. Ouais, maintenant, si on le projette,
non, il y a ce que pour notre conseil, aujourd'hui, c'est un peu.
Non, mais c'est certain.
On peut les lire aussi. Hein.
Ah oui, on peut les lire aussi.
Ah, mais moi, c'est pas nous qui disons.
Est-ce que vous voulez qu'on lise celle-ci ?
Non, il y a un souci de transparence pour tout le monde, c'est tout.
Alors, donc, en fait, il est demandé au conseil municipal d'approuver les conventions d'objectifs et de financement relatives à la prestation des services accueil du loisir en périscolaire et extrascolaire et les conditions générales annexées proposées par la CAF de Vaucluse. D'inscrire le temps d'accueil du mercredi et du samedi comme ne relevant pas d'un temps périscolaire, définir le niveau communal pour la communication des données financières pour un seuil d'implantation sur Bédouin. De choisir l'option numéro 2 pour un paiement sur facturation uniquement à la journée ou à la demi-journée. Inscrit le temps d'accueil du mercredi et du samedi comme relevant d'un temps extrascolaire, définit le niveau communal pour la communication des données financières pour un seuil d'implantation sur Bédouin. Autoriser Monsieur le maire à signer les conventions d'objectifs et de financement relatives à la prestation des services accueil de loisirs à LSH périscolaire et extrascolaire proposées par la CAF de Vaucluse, jointe en annexe à la délibération.
Oui. Luc, je ne prendrai pas part à ce vote-là, je pars à mes fonctions. Hein, sur...
D'accord. Très bien. Bien, bon. Pas de questions particulières, je suppose. Bien. Je le soumets donc aux voix, en prenant en compte le fait que nous ne serons donc 21 à voter. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie pour cette approbation unanime pour ce texte qui est un document standard. Et Monsieur Petit, comité technique de la commune de Bédouin, les représentants du personnel et le maintien du paritarisme.
Donc, conformément à la loi 84-53 du 26 janvier 84 et le décret 85-565 du 30 mai 85 modifié, considérant que l'effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel et des agents est de 50, considérant qu'en l'absence d'organisation syndicale représentative dans la collectivité, la consultation des représentants du personnel est intervenue lors du comité technique du 14 mai 2018. Considérant que lors de cette même séance, le comité technique s'est prononcé en faveur du nombre de représentants du personnel au sein de la comité technique établi à 5 titulaires et autant de suppléants, du maintien du paritarisme numérique, 5 représentants de la collectivité et du fonctionnement droit de vote au sein du comité technique. Dans la perspective des élections professionnelles du 6 décembre 2018, il est demandé au conseil municipal de fixer à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel et en nombre égal le nombre de représentants suppléants, de maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaire et suppléant, donc ils sont 5 aussi, et de décider le maintien du paritarisme de fonctionnement avec le recueil par le comité technique de l'avis des représentants de la collectivité en complément de l'expression de l'avis des représentants du personnel.
Des questions particulières là-dessus ? Bien, simplement pour information, nous avons effectivement 50 agences, ça c'est un chiffre intéressant à entendre. Nous en avions davantage depuis que nous avons fait le transfert de la crèche, vous le savez, de l'Office du tourisme. Ce personnel est un personnel majoritairement féminin, ce qui nous oblige, dans le cadre de sa désignation, nous avons 58% de dames. Donc ce qui nous oblige, dans le cadre de la désignation, d'une désignation équilibrée, à prendre 3 représentants de sexe féminin et 2 représentants. Dans la pratique, comme nous l'avions fait la dernière fois, eh bien soit ce sera une liste syndicale qui se proposera, bon, bien sûr sous réserve de respecter les délais de dépôt, ou soit nous tirerons au sort les volontaires, comme nous avons été tenus de le faire la dernière fois. Et ma foi, simplement, mais pour vous dire que les choses se passent bien dans cette instance nouvelle, et que nous avons maintenu, puisque théoriquement, on aurait pu redescendre au-dessous du seuil de 50, donc on aurait pu revenir. On a tenu à ce que ça se maintienne. Bien. Alors, pour ce comité technique, et donc le nombre de représentants maintien du paritarisme, je le soumets à vos voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie pour cette unanimité. Le CHSCT, Commission d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la commune de Bédouin, procédure, détermination du nombre des représentants du personnel et maintien du paritarisme. Monsieur Petit, s'il vous plaît.
Donc, on a les mêmes lois en référence, donc la loi 84-53 du 26 janvier 84, le décret 85-565 du 30 mai 85 et le décret 85-603 du 10 juin 85. Donc, considérant que l'effectif apprécié au 1er janvier 2018 servait à déterminer le nombre de la représentante titulaire du personnel des 50 agents et que justifie donc la création d'un CHSCT, considérant qu'à l'absence d'organisation syndicale représentative dans la collectivité, la consultation des représentants du personnel était intervenue lors du comité technique du 14 mai 2018, considérant que lors de cette même séance, le comité technique s'est prononcé en faveur du nombre de représentants du personnel au sein du comité technique établi à 5 titulaires et autant de suppléants, du maintien du paritarisme numérique, 5 représentants de la collectivité et du fonctionnement droit de vote au sein du comité. Dans la perspective d'élection professionnelle du 6 décembre 2018, il est demandé au conseil municipal de fixer à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel et en nombre égal le nombre de représentants suppléants, de maintenir au sein du CHSCT le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaire et suppléant et de décider le maintien du paritarisme de fonctionnement avec le recueil par le CHSCT de l'avis des représentants de la collectivité en complément de l'expression de l'avis des représentants du personnel.
Bien. Vous avez On est sur la même procédure que celle explicitée précédemment. C'est une autre instance. Je le soumets au moins. Nouveau, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie pour cette unanimité. Nous continuons dans la même voie pour la mise en place du compte personnel d'activité pour les agents de la commune de Bédouet.
Donc, depuis le 1er janvier 2017, l'ordonnance du 19 janvier 2017 introduit un nouvel article 22 ter dans la loi numéro 83-634 du 13 juillet 83 qui instaure le droit à un compte personnel d'activité. Le compte personnel d'activité a pour objet d'informer le titulaire de ses droits à formation et de faciliter son évolution professionnelle, ainsi que de permettre l'utilisation des droits qui y sont inscrits. Le compte personnel d'activité est composé d'un compte personnel de formation et d'un compte d'engagement citoyen. Le compte personnel de formation se substitue au droit individuel à la formation qui existait avant l'apparition de cette ordonnance. En application de l'article 22 ter de la loi 83-634 du 13 juillet 83, c'est le décret numéro 2017-928 du 6 mai 2017 qui prévoit les modalités de mise en œuvre du compte personnel d'activité et plus particulièrement du compte personnel de formation. En outre, la circulaire du 10 mai 2017 du ministère de la fonction publique apporte des précisions sur la modalité de cette mise en œuvre. Donc, vu l'avis favorable du comité technique en date du 14 mai 2018, vu le projet de règlement pour les agents de la commune de Bédouin, il est demandé au conseil municipal d'approuver le règlement du compte personnel d'activité pour le personnel communal.
Très bien, je vous remercie. Donc, une nouvelle procédure. Des questions particulières là-dessus.
Il est toujours un nombre d'heures ou un coût maintenant, ce compte ?
Il y a un nombre d'heures qui
est toujours un nombre d'heures en collectivité.
Qui se transforme en.
On n'a pas encore basculé sur le.
120 heures.
120 heures, comme
la plupart des agents les longs, tous 120 heures, pratiquement tous, oui.
Sauf les gens qui intègrent la collectivité.
Et,
oui, après, il y a toute la proratisation si tu as temps partiel enfin, sur le nombre d'années, mais tous nos agents qui sont là depuis plusieurs années auraient droit
à un compte
de 120 heures qui se traduit après effectivement qui peut se traduire en numéraire pour frais de déplacement et autres. Voilà.
Bien, je le soumets donc à vos suffrages. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Modification du tableau des effectifs, c'est petit, dans la même voie.
Alors, vu l'organigramme hiérarchique des services municipaux, considérant le besoin permanent d'un secrétaire de direction à temps complet pour le service technique et la commande publique, pour s'occuper aujourd'hui par un agent contractuel correspondant au grade d'adjoint administratif territorial, considérant les avancements de grade auxquels peuvent prétendre deux agents de la filière administrative et la concordance avec les postes concernés, technicité, responsabilité, sous réserve de l'avis favorable des commissions administratives paritaires catégorie A et C qui sont convoquées pour le 26 juin 2018, il est demandé au conseil municipal de créer à compter du 1er juillet 2018 les postes suivants. Un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe à temps complet, un poste d'attaché principal à temps complet, de supprimer le poste suivant, un poste d'attaché territorial à temps complet, de modifier le tableau théorique des effectifs annexés à la présente délibération et de dire que les crédits sont inscrits au chapitre 12 du budget principal 2018.
Très bien. Donc nous créons deux postes, mais qui sont en fait des progressions indiciaires. Si on restait sur un effectif constant, nous supprimerions les deux postes qui ont été dépourvus. Passez-moi cette facilité. Mais par contre, compte tenu du fait que nous créons le poste de secrétariat de direction pour le service technique, nous n'en supprimons qu'un qui ne correspond pas au grade sur lequel on peut recruter cette secrétaire-là. Voilà. Des questions particulières.
Je n'ai pas tout suivi là.
Ah ouais, c'est dur. Mais nous avons deux agents qui vont être proposés à une promotion interne.
Oui.
Qui est donc un agent service urbanisme et un agent donc, de direction.
Oui.
Donc, dans la logique, ce que nous faisons d'habitude, quand nous avons des augmentations de grade, on supprime les deux postes qui viennent d'être dépourvus, ce que je
comprends. Pour en créer de nouveaux.
voilà, on a créé de nouveaux, donc on en supprime deux et on reste toujours à 50.
Tout à fait.
Voilà, puisque c'est notre chiffre actuellement. Donc aujourd'hui, nous créons le poste de secrétaire de direction des services techniques qui, depuis de nombreuses années, a fait l'objet soit de contrats aidés, soit, oui, c'est essentiellement des contrats aidés, puisque vous avez vu se succéder Mme Cornan, deux, trois personnes. Donc nous avons aujourd'hui la personne qui nous semble avoir le profil donc idéal, et nous créons ce poste, puisque de toute façon on n'a pas de, on n'a plus de possibilité de, après bien, c'est un peu discuté, et c'est un autre, ça n'entre pas dans nos débats, donc nous créons ce poste là.
C'est bon, c'est deux créations qu'une suppression, parce qu'après il y a un jeu de, voilà, de chaises musicales par rapport au poste. On est obligé de voter globalement.
En fait, on n'a qu'une création finalement.
Oui.
Oui, d'accord.
Oui. Ouais. Ben, oui, tout à fait.
Oui, je pense que, compte tenu du corps de la délibération, on ne va pas recommencer à s'amuser à détricoter une délibération. Donc, je propose en tant qu'adjoint au personnel que la délibération soit présentée dans son corps entier.
Alors moi, simplement, sur les avancements, je trouve ça logique et c'est bien. Les personnes méritantes puissent avancer dans la hiérarchie. Concernant la création du poste, moi personnellement, je ne le remets pas en question, sauf que je m'interroge effectivement parce que je n'ai pas tous les éléments. Hein. Tout à l'heure, on parlait d'élu responsable, je pense qu'on en fait partie. Donc moi, sur le poste donc, de création, je souhaitais m'abstenir. Et vu qu'on ne peut pas scinder, ben, je me scinderai globalement, mais c'est un petit peu dommage.
Après, effectivement, bon, nous, on a présenté, sinon on fait des délibérations pour chaque poste, c'est comme ça devient compliqué. Non.
Donc voilà. Alors, c'est deux choses différentes.
Voilà.
Oui. Il y a deux avancements et une création de poste. C'est deux choses différentes.
On aurait pu faire effectivement une délibération sur l'avancement, une délibération sur un poste, une création de poste.
C'est pas le même sujet.
Oui, voilà. Fait, dans la pratique, je pense que quand on reproche d'une manière générale l'engorgement au sein des services techniques, faute de pouvoir traiter correctement les dossiers, de toute façon, vous le voyez au moment des budgets, on se retrouve toujours avec des restes à réaliser, des projets qui, pour lesquels bon, les choses deviennent très complexes. Donc, à un moment donné, on a fait le choix, mais ce choix, on ne le fait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, les circonstances nous obligent à créer ce poste parce qu'on n'a pas d'autre solution. Maintenant, après, est-ce que c'est la solution de faire fonctionner des postes sur des emplois précaires qui, tous les 6 mois, se renouvellent ? Je pense que les chefs de service qui bénéficient justement de l'intervention des agents trouvent assez fastidieux d'avoir à recommencer tous les 6 mois une formation en recommençant par le début, indépendamment de la qualité des personnes, bien entendu. Et donc, voilà, maintenant, après, merci, on a entendu vos...
On n'a pas dit qu'on était contre, on a dit
que c'était
deux, il aurait fallu deux délibérations différentes.
C'est bien pour cette raison que je le soumets donc au vote.
Oui, en fait, simplement, n'ayant pas la visibilité, je dirais à un certain moment, de rajouter effectivement des personnes, c'est bien dans un certain sens. Maintenant, est-ce que tout est optimisé, etc., etc. Je n'en sais rien, je ne me permettrai pas de juger effectivement, ne connaissant pas, mais après me faire valider quelque chose comme ça, moi je peux pas. Voilà.
Après, ça en fonction de.
Moi je suis habitué à optimiser les choses, les services, etc. etc.
J'entends. C'est vrai que.
Et je sais que des fois de rajouter du personnel à un certain moment, ça crée plus du désordre que de l'arrangement.
Voilà. En l'occurrence, depuis le début du mandat, on a fonctionné. Ce poste existe en emploi précaire, donc ça fait 4 ans. On en est à la 4e personne, c'est-à-dire que chaque fois on prend du retard, ce que disait M. le maire, effectivement, quand le contrat arrive à échéance, on recommence à tout expliquer et tout ça. Aujourd'hui, effectivement, on a une dame qui donne satisfaction et à nous, employés, et qui aide de façon Gilles Jouveau sur tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, après, nous, on a jugé qu'effectivement, ça serait bien d'asseoir ce poste de façon définitive. Il n'y a pas d'incidence sur le budget puisque le poste était contractuel, donc avait été pris en compte sur l'année. Donc tel que le budget a été voté il y a un mois et demi ou 2 mois sur le chapitre 12, il ne devrait pas y avoir d'incidence. Voilà. Voilà ce que je peux te répondre sur le,
voilà, okay.
Et une autre question, mais c'est peut-être plus dans la compréhension, sur le tableau des effectifs. Je vois que Mme Gesselin apparaît deux fois en tant que DGS. Oui. Attaché territorial.
Je vous rassure, on ne la paye pas deux fois.
C'était pas ça mon inquiétude. Je vous rassure, c'était pas ça mon inquiétude. C'est normal parce qu'après, dans la comptabilisation, c'est pareil, elle est comptée deux fois. D'accord.
Elle est sur une poste de détachement.
D'accord. Et dans l'effectif pourvu, donc, en fait, il y a 39, mais il n'y a que 38 personnes.
Oui.
D'accord. Bon. C'était la précision que je voulais avoir. Ça paraît un peu curieux. C'est doux, je ne sais pas si tout le monde s'est posé la question.
Oui, c'est pour mémoire. En fait.
Oui, bon, on aimerait bien en avoir deux. Bien, je le mets donc à votre approbation. Alors, y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition. Des abstentions. Donc, M. Constant Bernard, le pouvoir de M. Rossetti, je suppose. Madame Perrin, Madame Malher, bien. Donc, unanime, enfin, preuve favorable pour le reste de l'effectif. Donc, ce qui nous donne 15 voix. Merci. Tirage, pardon, tableau des effectifs, création d'emplois non permanents. On en arrive. Madame Leclerc.
Non, elle a dit que... non, monsieur Petit, en tant que responsable personnel.
Ah bon. Donc, sur le budget annexe camping-piscine pour l'exercice 2018, comme chaque année, on va recourir à l'emploi d'agents non titulaires pour faire face à l'accroissement saisonnier. Donc, il s'agit d'un maître-nageur, grade d'éducateur territorial des activités sportives non titulaires. Temps complet, donc 3 postes, et surveillant de baignade, grade d'opérateur des activités physiques et sportives, non titulaire, temps complet, 3 postes. Donc sur les crédits du chapitre 12 du budget annexe camping, piscine, tennis pour l'exercice 2018. Donc il est demandé de procéder à la recrutement et d'approuver la création des postes d'emploi non permanents tels que mentionnés ci-dessous et de dire que les crédits sont inscrits au chapitre 12 du budget annexe camping, piscine, tennis.
Très bien. C'est le recrutement habituel aux périodes dont on a besoin. Voilà. Je le soumets à vous voir. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Pour information aussi, puisqu'on a beaucoup parlé de promotion, de formation, l'un de nos agents, Sébastien Jacquemet, a réussi donc son concours. C'est un concours de niveau B qui lui permettra d'exercer les fonctions de surveillant de baignade. L'étape, c'est une étape. Ça va bien. Bravo. Tirage au sort des jurés d'assises. Année 2019.
Il faut voter. On a voté ?
On a voté ? Quel ?
Les hommes permanents ?
On n'a pas voté ?
Si, on a voté.
Bon, y a-t-il
voté ? Ça va ?
Si, on vient de voter. Oui, si, si.
Ça va ?
Allez.
Non, c'est pas moi.
Désolé. Tirage au sort des jurés d'assises. Madame Route.
Vu le code pénal, notamment l'article 254 et suivant. La loi 78-788 du 28 juillet 78 modifiée, portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises, vu le décret 2017-1873 du 29-12-2017 authentifiant les chiffres de la population, vu l'arrêté préfectoral du 23 avril 2018 portant à 2 le nombre de jurés d'assises pour la commune de Bédouin, considérant qu'il convient de procéder au tirage au sort sur les listes électorales de la liste préparatoire, considérant qu'en vue de dresser la liste préparatoire, le maire tire au sort publiquement, à partir de la liste électorale, un nombre de noms triple à celui fixé par l'arrêté préfectoral, considérant que ne sont pas retenues les personnes qui n'auront pas atteint l'âge de 23 ans au cours de l'année civile qui suit, il est demandé au conseil municipal de procéder au tirage au sort de la liste préparatoire des jurés d'assises pour l'année 2019. Alors...
Non, mais je sais.
Donc en première position, si on peut dire.
Véronique Delbar.
Numéro d'inscription sur la liste générale.
numéro 2, 121.
Oui. Numéro 2.
Erika Delville, 290.
Quel bureau ? D'ailleurs, le numéro du bureau.
290.
Et il n'y a pas un numéro de bureau ?
Numéro de bureau.
Non, je l'ai comme ça.
Ah bon, ah bon, d'accord.
Numéro 3.
Numéro 3. Marie-Christine Hubert, 1434. Épouse Lefranc. Oui. Joël Perret.
Numéro 4, Perret Joël.
1650.
Je suis content. Numéro 5.
Arnaud Roux, 783.
Et numéro 6.
Jean-Claude Triboulet.
Oh.
1790.
Très bien, merci, mais cette liste sera transmise donc à qui de droit, puis ensuite, ben, vous le savez, procédera à un nouveau tirage dans quelques années. Donc ça, on n'a pas l'approuvé, c'est simplement le constat d'une opération qui s'est déroulée d'une manière publique. Bon, le point numéro 15, position du conseil municipal de Bédouin relatif au déploiement individuel des compteurs communicants, nouvelle génération dite Linky, sur le territoire communal. Donc vous m'aviez interpellé donc, il y a quelque temps à ce propos. Donc j'ai donc pris attache de l'association des maires de Vaucluse. Je vous avais adressé d'ailleurs pour les élus dans vos casiers une copie donc, de la position de la préfecture concernant les délibérations qui était prise donc dans un sens où le préfet, comme il avait annoncé d'ailleurs lors de la réunion des maires de Vaucluse, traduisait au tribunal administratif toutes les délibérations qui lui arrivaient concernant les oppositions. Nous attendons, nous avons aussi un député qui devait communiquer une position et donc un certain nombre d'éclaircissements. Bon, cela étant, considérant la loi 2015, je vais donc vous proposer moi, une délibération qui est à plusieurs volets. Alors, considérant la loi 2015-992 du 1er août 2015 relative à la transition énergétique qui instaure le déploiement de compteurs nouvelle génération Linky par les sociétés en charge de la gestion du réseau de distribution de l'électricité en France, considérant l'objectif d'équiper 35 millions de foyers en France d'ici 2020 et que 7 millions de compteurs ont déjà été installés dans notre pays, considérant l'objectif principal de ce déploiement qui trouve son origine dans une directive du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et qui vise à offrir un nouveau service à distance et favoriser la réduction des consommations d'énergie, considérant le déploiement du compteur Linky sur le territoire communal qui va être initié dans les prochains mois, considérant le débat public qui s'élève toujours plus depuis l'instauration des compteurs Linky en France, considérant les arguments sécurisants d'Enedis vis-à-vis des opposants du compteur Linky, l'avis de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, selon lequel le compteur Linky fournit des avantages en termes de comptage et de gestion du réseau électrique, de maîtrise des pointes de consommation, voire de diminution du contenu de CO2 du kilowatt électrique, et le positionnement de l'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, selon lequel les risques sanitaires sont peu probables, considérant le refus de l'Assemblée nationale et le refus du Sénat de reconnaître le droit des consommateurs de s'opposer au compteur Linky. La commune de Bédouin prend acte que son conseil municipal ne peut s'opposer juridiquement au déploiement sur son territoire communal des compteurs Linky eu égard à la nature de services publics et de la distribution d'électricité en France reconnue par les tribunaux administratifs dans le cadre des contentieux introduits à l'encontre des villes s'opposant au déploiement des compteurs Linky, considérant la persistance d'un débat public
clivant en France et le maintien d'une confusion quant aux impacts dans différents domaines de compétences, santé publique, économie, droit à la vie privée, sécurité, environnement. Considérant l'information relayée par la presse selon laquelle Enedis serait enclin à réinstaller d'anciens compteurs dans certaines communes où les oppositions s'avéreraient résistantes, considérant enfin le règlement général sur la protection des données, RGPD, émanant de l'Union européenne et qui entre en vigueur le 25 mai 2018, consacrant le consentement des personnes au traitement de leurs données, sur la base du principe de précaution, il est proposé au Conseil municipal d'adopter une motion enjoignant Enedis à respecter la volonté des personnes qui expriment leur refus d'installer le compteur Linky à leur domicile, à développer une communication sur les modalités de déploiement sur le territoire communal. Le Conseil municipal invite les administrés à faire connaître à leurs fournisseurs d'énergie leur opposition éventuelle au déploiement des compteurs Linky. Voilà donc la motion que je vous propose, laquelle émane bien entendu de l'Association des maires de Vaucluse. Une question particulière là-dessus ?
Oui, je vous écoute. Donc, doit-on rappeler que c'est moi qui avais fait cette proposition au nom de notre groupe au mois de février de cette année, ou au mois de décembre, plutôt, montre le cube, peu importe. Tout le monde se rappelle la réponse que tu m'avais fait, que je faisais de la poudre aux yeux, de la démagogie, que je prenais les citoyens pour des gogos, que tu t'étais saisi du problème depuis longtemps. Apparemment, tu as eu le temps de réfléchir parce que tu as changé d'avis sur le sujet. Ça nous rassure. Que tu voulais épargner du travail au secrétariat pour faire une délibération. C'est bien, on a pris un compte. Bon, tu as un petit peu changé d'avis, sauf que ce n'est pas une délibération contre l'installation des compteurs Linky, c'est une motion. Ce n'est pas tout à fait pareil, et ça vient de l'AMF. Donc je suppose que l'AMF, au niveau départemental ou au niveau national, pour défendre quelque peu les citoyens, je dis bien quelque peu, a proposé au maire de prendre ces motions. Alors je pense, nous allons la voter, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas une délibération contre l'installation des compteurs Linky. Ensuite, dans cette motion, il y a quelque chose qui me gêne un peu, lorsqu'il est dit que le positionnement de l'ANSES dit que les risques sanitaires sont peu probables. Ben, j'invite tout le monde à lire le rapport de l'ANSES sur le sujet. Ce n'est pas ce qui est dit. Après, il y a d'autres risques et tout. Et donc, cette motion, parce que c'est une motion, je trouve que c'est un peu... après, lorsqu'on est maire, où on défend ses administrés, ou on ne les défend pas. Après, ça, chacun fait comme il veut. C'est une motion petit bras, je dirais. Parce que si on est vraiment opposé, et si on veut que... s'opposer à ces compteurs Linky, il faut prendre une délibération dans ce sens. Une motion, c'est une motion, tout le monde va prendre des motions, et l'installation des compteurs Linky va continuer. Mais c'est quand même une avancée, et bon, après je ne vais pas faire du triomphalisme, mais c'est un peu grâce à nous, parce que c'est nous qui l'avions demandé.
Moi, pour finir, hein, parce que ça va être un peu dans le même sens, c'est intéressant, c'est une motion, c'est une première étape, mais ça ne va pas assez loin. On aurait pu s'opposer à l'installation de ces compteurs Linky pour plusieurs raisons. Il y a, tant que l'innocuité du rayonnement n'est pas démontrée, principe de précaution, on peut s'y opposer. Tant que les profils de consommation ne seront... Qui c'est qui nous prouve que les profils de consommation ne seront pas utilisés à des fins détournées ? Rien pour le moment. Donc on peut s'opposer. Ensuite, il y a l'accord. C'est un peu dit là dans la motion, l'accord des abonnés. Je veux dire, hein, on ne peut pas changer ses compteurs sans avoir l'accord des abonnés. Et la commune reste, il y a un débat, je sais là-dessus, reste propriétaire de ses compteurs et propriétaire de la collectivité publique de ses compteurs sur les courants basse tension. Donc c'est quand même une obligation, normalement, ça appartient à un bien public, de désaffection de ses compteurs avant de les changer. Donc on aurait pu tourner une délibération. Et il y en a des exemples sur le territoire du Vaucluse qui sont intéressantes, certes, qui peuvent être retoquées par la préfecture, mais
qui positionne quand même un conseil municipal vis-à-vis de ces compteurs-là. Voilà. Tant qu'on n'a pas plus d'avancées d'éléments, moi je dirais qu'il fallait aller un peu plus loin. C'est peut-être une étape. Alors, puisque tu parles là, à développer une communication sur des modalités de déploiement sur le territoire. C'est que ça veut dire qu'il y aura des informations, il y aura des réunions publiques, mises en œuvre sur ça ou pas.
Et nous, on en fait la demande maintenant. J'espère donc qu'ils m'aident, parce qu'effectivement, ça ne bouge pas qu'à notre au niveau local. Mais par contre, moi, je voudrais revenir sur ce que vient de dire M. Bernard. Effectivement, on n'était pas dans la même, je n'ose pas dire sur la même longueur d'onde, en parlant des Linky, parce que ce serait mal. C'est que vous me demandiez une motion s'opposant à la
poste
de délibération, s'opposant, voilà. Donc on est bien d'accord, et c'est à ce titre que je vous ai répondu, que je vous ai mis d'ailleurs dans les casiers, vous devez encore l'avoir dans le document dont je faisais état venant de la préfecture. Donc effectivement, on n'est pas dans une motion faisant opposition. Donc, et moi, on ne va pas aller au-delà.
C'est dommage.
Il y a certaines communes, ils ont connaissance effectivement qu'ils vont se faire retoquer, mais ils prennent quand même une délibération. Voilà, c'est simplement ça. On sait très bien qu'on peut être contraint de la retirer à un certain moment, ça on le sait, mais c'est le débat, il est vraiment, est-ce qu'on se positionne effectivement par le principe de précaution contre cette mise en place des conteneurs Linky ou pas? Après, on sait que ça va se faire retoquer, on sait que ça n'a aucune valeur juridique. Mais le fond c'est, de la question, c'est est-ce qu'on y va et on se positionne par une délibération, ou on y va avec une motion qui finalement, tout le monde sait qu'elle ne sert à rien. Autant la délibération, on sait qu'elle ne sert à rien, mais je dirais que c'est un positionnement qui est clair aux yeux de tout le monde, alors qu'une motion, c'est... Voilà. C'est simplement ça. Après, se faire retoquer, c'est pas, je veux dire, ça ne changera pas l'histoire de la commune de Vedouin, quoi. Voilà. C'est très bien.
Sûr, mais voilà. Parce que
une motion, telle qu'elle est présentée, c'est... Moi, je regrette, tu vas peut-être pas apprécier ce que je vais dire. C'est un peu faire semblant de s'occuper des habitants.
Ouais, c'est petit bras.
Non, c'est petit bras. Je regrette. On s'oppose dans la motion, mais ça ne servira à rien, on verra la suite.
Voilà, et chacun a son
avis. Même à la beauté, hein.
C'est une délibération. Si ça ne vous satisfait pas, ne dites pas de suite que c'est le maire qui vous
fait voter. Il n'y en a pas assez, c'est notre sentiment, mais il y a des... Après, s'opposer, ça serait pire.
Après, les citoyens peuvent aussi s'opposer s'il y a d'autres formes d'engagement et d'opposition à ce type-là. Donc peut-être que ça va faire réagir aussi. C'est vrai qu'on n'a pas encore été interpellé par des habitants. Il n'y a pas eu encore sur Bédouin. Ils sont à Caron pour le moment.
J'ai eu un courrier dont qui est arrivé ce matin d'une personne que j'ai voulu apercevoir dans la salle. Voilà. Et autant que je sache, je crois que j'en avais eu un il y a quelque temps, même formant, donc elle souhaitait personnellement qu'elle s'opposait à la pose du compteur Linky, mais qu'elle le ferait savoir à l'installateur, pourtant que celui-ci se signale, pourtant que celui-ci vienne de le faire.
Il y a aussi ce problème-là, c'est que
tous les compteurs ne sont pas à l'intérieur des propriétés, et tout le monde ne surveille pas en permanence.
Oui, je peux faire une petite remarque, c'est arrivé à mes parents, ils ont eu leur compteur qui est tombé en panne, et sans leur demander, ils ont installé un compteur Linky.
Ouais, pareil.
Voilà. Après, bon, voilà, ils ne savaient pas. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Et après, je l'ai vu, c'était fait. On ne ramène pas demandé.
Ne serait-ce que par rapport à la procédure de mise en place.
Ils ont dit, on change le compteur. Il est à l'extérieur. Ils ont les vues.
Une communication là-dessus.
Il faut une communication là-dessus.
Très bien. Mais écoutez, donc je le mets au bois. Alors, y a-t-il des oppositions à cette motion? Des abstentions? Donc, je vous remercie pour cette unanimité. Point numéro 16. L'état des décisions du premier trimestre 2018. Donc, c'est quelque chose qui est réglementaire. Donc, qu'est-ce que je peux... Je n'ai pas de commentaire en particulier à faire là-dessus. Vous avez une liste de non-préemptions, puisque nous y sommes régulièrement soumis. Des conventions d'AMO, encore pour l'église,
Requalification d'un passe du haut, mise à service construction publique.
La convention portant sur les zones d'habitat diffus, ça, je ne l'ai pas vu quand j'ai regardé les documents. Ça veut dire. Tu peux nous en dire un mot?
Alors, la convention sur les zones d'habitat diffus et contact urbanisme, oui. Forêt en Vaucluse pour la commune de Médouin, c'est l'opération qui consiste pour les obligations légales de débroussaillonnage. On en a parlé, ça, la dernière fois, que nous allions lancer, au moment du budget, du moins, que nous allions lancer, bon, à certains points qui nous ont semblé plus vulnérables que d'autres, cette intervention avec le syndicat mixte forestier.
C'est eux qui vont faire l'opération d'information.
Oui.
Ils ont fait, si tu veux, ils ont fait le tour de toute la commune et ils nous ont fait un état des lieux.
Ils n'ont pas fini, si.
Alors, l'état des lieux, on l'a reçu. Ça a engendré des frais de 170 000 euros, quand même. Donc, nous, on est intervenu derrière. On a priorisé certaines zones. Donc, on va le faire sur une période de 4 ans. Pour qu'on puisse encaisser le coup. Quoi. Donc, cette année, ça va être le chemin des... Ah, voilà, comment ils appellent ce chemin ?
Des granges.
Des granges. Et il y a deux autres chemins. Et ensuite, l'année prochaine, on regardera le programme qu'ils nous ont fait et au fur et à mesure, on éliminera les zones qui ont été faites et on passera à d'autres.
Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont commencé à passer chez certains particuliers.
Oui, ça
c'est le syndicat forestier.
C'est l'information qu'il faut qu'ils fassent auprès de tous les riverains. Nous, communes, on veut donner l'exemple, c'est-à-dire déjà débroussailler, pour que derrière les privés puissent voir que quand même la commune elle bouge et que derrière ils ont.
Oui, parce qu'il y a l'obligation légale de le faire.
Tout à fait.
Avec des règles bien particulières.
Tout à fait.
Pieds séparés.
C'est le propriétaire de la maison qui est concerné, qui doit débroussailler chez le voisin. Fait, ça, c'est complexe, quoi.
Ouais.
C'est compliqué.
Les documents sont à la police.
Ça peut poser des problèmes.
Et c'est géré par Noémie Caillé qui s'occupe de ce dossier. Donc ils peuvent venir à la police pour se renseigner. Et donc cette année, on doit attaquer la fin du mois. Bon, je pense que ce sera début du mois prochain, parce que là, nous y sommes à la fin du mois. Mais bon, il fallait qu'on fasse quelque chose, donc voilà.
Bon, effectivement, petit à petit, chaque année, on va y être soumis. Il ne faut pas oublier non plus pour les particuliers qu'en cas de non-exécution, on peut se trouver en cas de sinistre. Vous allez me dire, des maisons, il n'en brûle pas tous les jours, mais on en a une qui a brûlé dernièrement dans le secteur des tournures. Quand ce n'est pas respecté, les assurances seront au jeu de dire, monsieur, dame, vous n'aviez pas pris les précautions nécessaires et réglementaires, et donc, c'est légal. Donc, voilà. Bien, écoutez, mesdames, messieurs, donc, le conseil municipal donc, est terminé, donc je vais continuer, puisque j'ai la parole, pour un certain nombre de communications. Bien, comme vous le savez, nous avons réuni hier soir le comité de suivi et de liaison du projet Holbein. Je ne vous présente pas dans les détails. Et donc, après quatre séances de travail, donc après discussion hier au soir, exposé, nous avons pris la motion suivante. Notre commune de Bédouin, qui revient un peu sur les faits, bien sûr, a été sollicitée par un concepteur de projet privé qui se proposait de construire à Bédouin, sur un terrain privé, un complexe touristique, hôtelier, sportif avec des installations spécifiques. Cette proposition est intervenue dans un contexte peu favorable à notre village, une population en constante diminution, la fermeture de trois classes avec la menace d'une quatrième fermeture, classe maintenue depuis, mais jusqu'à quand ? Un important vieillissement de sa population, auquel la commune essayait de pallier par la construction de logements sociaux permettant de fixer au village de jeunes ménages avec des enfants, un tel engagement étant par ailleurs rendu obligatoire par le PLH, Programme local de l'habitat de la communauté d'agglomération, 235 inscriptions de ces résidents au Pôle emploi. Conscient de l'intérêt économique de cette proposition pour notre commune, nous avons alors constitué un comité de suivi et de liaison avec des volontaires de la société civile, du monde associatif et des élus.
Au cours de ces trois premières réunions, le comité a posé pour principe le non-engagement des finances municipales dans cette opération privée sur un terrain privé, le versement à la commune de la TLE, taxe locale d'équipement, une priorité donnée à la formation professionnelle des habitants demandeurs aux différents profils des postes préalables aux embauches le moment venu, la participation des investisseurs à un fonds de financement participatif constituant une aide financière pour différents travaux en cours ou à venir, réfection de l'église, construction de salles d'activité, etc. L'utilisation par la commune et les associations de certaines des infrastructures du complexe suivant une convention à établir. La présentation d'un projet précis afin de pouvoir en établir une déclaration conforme aux attentes de la municipalité non susceptible de changement. Le respect de l'environnement et une insertion paysagère exemplaire. La participation de la commune au comité de gestion du projet, une considération bienveillante vis-à-vis des postulants locaux, tant pour les emplois directs que pour la gestion des commerces et services, l'engagement d'hébergement destiné aux employés. Des membres du comité de suivi ont été chargés de consulter le cabinet comptable en charge d'établir le modèle économique et les comptes prévisionnels à moyen terme. Il ressort de l'analyse que le modèle est innovant et présente une grande cohérence avec notamment l'idée d'un investisseur exploitant. Les budgets ont été réalisés sur la base d'hypothèses parfaitement réalistes, même si elles doivent être affinées et complétées par les financeurs. Quant aux échanges avec l'architecte, auteur du projet présenté, il montre que l'équipe choisie est expérimentée et compétente. Elle attend également que le plan de financement soit bouclé pour envisager des études plus approfondies et l'établissement d'un programme. À ce jour, les éléments n'étant pas tous réunis, toute poursuite de réflexion ne semble pas justifiée. Considérant cette situation, le comité de suivi et de liaison qui a rempli sa mission n'estime pas nécessaire de continuer à se réunir. Il est donc momentanément suspendu. Seuls des éléments nouveaux et probants pourront motiver de nouvelles réunions. Une seconde phase pourrait être envisagée si un plan de financement peut être bouclé, donnant une possibilité d'engager une discussion avec l'investisseur. Dès lors, la population en serait informée et le comité réactivé. Donc, vous avez bien compris qu'en l'absence d'interlocuteurs investisseur nommément désigné et avec lequel on pourrait justement avoir des exigences, avoir confirmation de certains engagements. Donc on ne peut, il est inutile de continuer à émettre les vœux et les suppositions les plus folles tant que l'on n'a pas les plus diverses, tant que l'on n'a pas d'interlocuteur. Donc, jusqu'à plus ample informé, le comité de liaison est suspendu et donc, eh bien, on attendra à la suite d'un projet avec sérénité, comme nous avons en ce moment des demandes pour des projets de photovoltaïque, voilà, qu'on examinera aussi, des demandes de construction collective d'un genre particulier pour lequel donc, nous avons rendez-vous. Comme tous les projets qui sont comme tous les jours soumis à la commune qui essaie de les examiner au mieux. Donc, je réinsiste sur le fait que une discussion avec un porteur de projet est certes intéressante, mais à un moment donné, et sans perdre, toutes les choses peuvent continuer par ailleurs, donc il est nécessaire d'avoir le véritable interlocuteur pour répondre aux véritables questions que l'on se pose. Voilà donc ce communiqué que je diffuserai à la presse, bien sûr, que je vous transmettrai, et donc qui a fait l'objet, je me tourne vers les membres de la commission hier, d'une approbation unanime. Inutile de continuer à se déchirer tant que l'on n'a pas de certitude sur à la fois nos exigences et leur respect.
Oui.
À ce sujet.
Vas-y. Vas-y, Patrick. De ce qui veut dire que le porteur de projet, si on a bien compris, n'a pas les financeurs.
À ce jour, vous prenez le texte de mon... Les éléments ne sont pas tous réunis.
Ça veut dire que depuis le début de l'affaire, vous n'avez pas pris la précaution de savoir s'il y aurait un financeur sérieux derrière ce projet.
La question n'est pas celle-là.
Ah ben si.
La question qui s'est posée, non, on ne va pas recommencer le débat de...
Non.
On a une intention, de la même manière, je vais faire... J'ai été contacté par les carrières qui veulent établir un endroit donné de notre commune. Non, on est exactement dans la même... Est-ce que vous êtes d'accord pour que l'on implante un parc photovoltaïque ? Les carrières ne sont pas venues en me disant « Monsieur le maire, on a telle entreprise machin qui va mettre tant d'argent. » On commence toujours par des déclarations d'intention. Et ensuite, les déclarations d'intention...
Mais le dur de faire mon main, hein.
Et Rome ne s'est pas faite en un jour.
Le vélodrome non plus.
Le vélodrome non plus.
Ça arrive.
Donc voilà, donc nous suspendons les travaux du comité de liaison. Maintenant, voilà.
Demain,
tel projet ou tel autre peut venir, pour venir là ou ailleurs. Hein. Bon, ouais. Ça fait partie de nos.
Pourquoi une suspension et pas un arrêt, parce qu'il y a toujours possibilité.
Bien sûr.
Puisque tu as parlé donc d'existence d'un budget réalisé sur la base d'hypothèses réalistes, c'est ce que j'ai entendu. Il y a déjà un chiffrage, il y a déjà des coûts, il y a déjà des exploitations, je suppose, de cet équipement qui ont déjà été envisagés.
Oui, mais faut-il encore que l'on soit sûr que la personne qui le modèle effectivement donc a été validé par différentes personnes donc. Réputé capable dans ce domaine. Et donc, le système a priori fonctionne, mais pour autant, supposons qu'un investisseur, prenons un exemple classique, décide qu'un musée ne l'intéresse pas, ça signifie que c'est tout, les chiffres doivent être rebrassés. Moi, je ne pense pas que ce soit un musée, d'ailleurs, qui fasse capoter
un projet
d'établissement.
Mais...
Tu avais dit quelque chose. J'ai des commentaires plus tard.
J'ai dit que le porteur de projet continue de sa quête d'investisseur.
D'accord, c'est pour ça qu'il y a une suspension. Le porteur continue sa quête d'investisseur. Donc, ça peut revenir sur la table.
Absolument.
Ou pas.
C'est quand même bizarre qu'un porteur de projet arrive sans financement. Moi, ça me paraît extraordinaire. Surtout pour une somme comme ça.
C'est une somme évaluée, ça
paraît un peu curieux.
Non, moi, ça me paraît bizarre, mais bon, ce n'est que mon avis.
Très bien. Donc, communiqué.
Juste après, tu as parlé de projets à venir, tu as parlé de photovoltaïque sur les carrières, tu as parlé de logements qui se créeraient, de type particulier. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une communication, une information au sein de la commune de ce type de projet ou pas du tout? Ça reste quelque chose qui se travaille là
J'ai reçu avec M. Maire, c'est-à-dire dans la liste des rendez-vous du maire. Chacun bien en général avec un projet qui est plus ou moins important. Ça peut être un branchement électrique, ça peut être un
décorrelage. Donc ça fait partie des... qui engage la commune sur voilà. Du...
Bon, ensuite, les projets, bien sûr, sont de taille variable. Mais ça peut être, demain, ça peut être tout est n'importe quoi. Quand on est sur un projet, un temps soit peu important. Il faut tout de même, avant d'engager, bon, vous connaissez les procédures, nous, quand on commence à refaire une loi, quand on commence à refaire quoi que ce soit, on a besoin d'une assistance à la maîtrise d'ouvrage, on a besoin, avant que d'engager les frais, faut-il savoir si le projet a une chance d'avoir un accueil favorable.
Ouais.
C'est vrai pour tout type de projet, en poussant à l'extrême, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on installe une poudrière à Bédouin, pourquoi pas, ou une métallurgie ou autre chose?
Il y a des projets de ce type-là qui méritent
pas,
dès le début une information, une communication.
hein, pour, voilà, pour pas rater un petit peu ce qui s'est passé avec ce projet-là ou ce qui se passe encore. Voilà, une scission ou une opposition ferme à ça. Je veux dire, par exemple aussi sur les projets de la piscine, les logements, les 30 logements de type, je ne sais pas si c'est Pierre et Vacances qui vont se faire, hein, le permis a été déposé, le permis est arrêté pour le moment. Tu as des nouvelles là-dessus ou pas?
Le permis, oui, mais je vois ce dont tu parles. Mais ce permis, bon, déjà, c'est un permis qui était en instruction. Donc, en instruction, vous le savez, les permis ne sont pas communicables.
Oui.
Donc, un permis n'est communicable au public qu'après qu'il ait été accordé. Et donc, pendant un laps de temps donné, les personnes...
Il y a des recours.
Voilà, peuvent
exercer des recours,
au cours des voisins ou de la préfecture. Hein. D'ailleurs, on a les deux, on
a les deux possibilités.
Donc, sur ce projet, il semblerait effectivement donc, qu'il y a
un recours des tiers.
Un recours des tiers.
Et l'investisseur n'est pas revenu nous dire s'il allait poursuivre ou... Moi, j'ai pas
pas plus d'informations. Le recours suit son cours et on va
attendre. C'est un projet privé, du fait. Oui, au même titre que si quelqu'un se fait attaquer sur une maison particulière, la mairie n'est pas forcément en temps et en heure au courant, sauf si elle est partie prenante, c'est-à-dire si le préfet intervient en disant qu'on a délivré un permis de façon...
On est sur des projets d'envergure quand même, on n'est pas sur une maison, hein, ou sur un petit lotissement. On est sur 30 logements, on est sur, voilà, sur des projets, ce que j'appelle importants et structurants par rapport à la commune, et par rapport au développement et au devenir de la commune.
Mais c'est qui reste un projet où la commune... ne peut rien dire.
Non. Sur ce type de projet, on a une réglementation d'urbanisme. Si la réglementation d'urbanisme vous permet dans une zone de faire le projet qui est le vôtre, qu'est-ce que vous voulez qu'on passe? Après, on a l'avis conforme des bâtiments de France quand on se trouve dans le périmètre de l'église, vous le savez. Mais c'est de cette manière. Après, est-ce que ça relève du ressenti? On a sur Bédouin 2-3 maisons qui sont les maisons du flou, comme tu dis, donc des maisons qui sont des parallélépipèdes, enfin, parce qu'il peut avoir son charme. Donc si celles-ci sont validées quand elles sont dans le périmètre de l'église par l'ABF, on n'a pas de recours, susceptible d'aboutir qu'on peut diligenter au niveau de la commune. De la même manière.
Il y a un certain nombre de recours quand même. Hein. Mais bon, sur l'architecture, sur les paysages, sur...
Non. Parle mal, Dominique.
En général, quand l'ABF a donné son avis à proximité d'un bâtiment classé, derrière, tu ne peux plus faire grand chose. Si lui a donné son avis, parce qu'il est très restrictif, c'est que ça ne modifie pas trop le paysage. Sinon, il leur refuse systématiquement.
Un autre exemple, on a eu à un moment donné des réclamations par rapport à une couleur de façade. Certains s'en souviennent. L'ABF qui était dans le périmètre de l'église, l'ABF a été là-dessus, a donné son aval. Et il a fallu la force de persuasion de notre adjoint à l'urbanisme, l'affaire a été faite d'ailleurs, pour persuader que dans un souci de convivialité, d'acceptation, c'est pas aussi tranché. Quoi. Et de la même manière.
La couleur était validée par l'ABF comme étant une couleur pierre.
Oui.
Sachant qu'effectivement, la pierre d'ici n'est pas tout à fait cette couleur.
Mais c'est sérieux, la BF.
Non, mais après, il y a des nomenclatures qui font que, voilà, après, il y en a une autre qui est 2-3 maisons plus loin, qui est la même couleur, qui n'a jamais posé aucun problème, qui est encore, à qui on n'a jamais demandé de refaire la façade. Sur la même rue, 2 maisons plus loin, enfin un peu plus loin. Sur la route du stade.
Dans les différents éléments à venir, le trophée de pétanque des élus vauclusiens se tiendra le 3 juin 2006 à Carpentras. 2016, pardon. 2018. À Carpentras, quand même. Voilà, donc si vous voulez vous y inscrire. Je vous propose un prochain conseil municipal lundi
2 juillet 2018. Très bien. Y a-t-il des questions particulières? Je passe.
Oui. On t'a versé un courrier ainsi qu'à l'ensemble des conseillers au sujet d'une précision sur le compte administratif du SMAEB. Oui. Donc, il nous a été répondu par Madame Benezek. Vous envoyez quelques chiffres qui émanent du SMAEB.
Du compte administratif.
Voilà. Donc, et puis, si on avait besoin d'autres renseignements, nous adresser directement au SMAEB. Oui. Bon. Je suis quand même vice-président du SMAEB. Je dois pouvoir avoir accès au compte administratif.
Et quelle était la question particulière? On m'avait demandé.
Oui, non, mais bon, c'est pour la petite histoire. Donc il y a quelque chose qui nous a.
Après, quand même, il ne faut pas pousser quand même le bouchon trop loin. Peut-être, vous êtes responsable syndical, vous savez certainement, et de tête, toutes les dépenses qui sont faites par votre structure. Je crois qu'il faut laisser à chacun un peu sa spécialité.
Bon, d'accord. Merci. Donc il y a quelque chose qui nous a un peu interpellé lorsqu'on a vu ce compte administratif qui était paru dans la presse, hein, pas... c'était l'argent qui avait été dépensé pour le projet du parc en 2017. Donc en 2017, le projet du parc était gelé, il a redémarré au mois de décembre, le président de la région a souhaité remettre en marche le projet, bon, ça, pas de problème. Donc il a quand même été dépensé 396 000 euros pour le projet du parc en 2017. Donc on a reçu les détails. Alors il y avait beaucoup d'actions, surveillance de la biodiversité, éco-citoyenneté. De toute façon, tous ces éléments sont disponibles sur le site du SMAEB. Je vous invite à les voir. Parce que 400 000 euros qui proviennent uniquement de subventions, hein, région, département, commune, pour une partie. Il y a quand même 4,2 équivalents temps plein qui ont travaillé pendant toute cette année sur un projet de parc qui était à l'arrêt. Donc, je n'ose pas imaginer quand il va être en marche, combien ça va coûter. Il y a quelque chose que j'avais reçu avant que le projet redémarre. En tant qu'élu chambre d'agriculture, il y avait une grande enquête sur le territoire, sur plan paysage sur le territoire, une enquête avec des photos présentant divers paysages, dont des paysages de montagne, des beaux villages du coin, en gros une dizaine de photos, après quelques photos un peu moins jolies, des entrées de village avec des poubelles, des poteaux électriques, une serre dans un champ, enfin bon, voilà. En tout, il y avait en gros une dizaine de photos, je ne me rappelle plus, hein. Maintenant on ne peut plus les consulter, entre 8 et 10 photos. En regardant de plus près les chiffres, ce plan paysage a coûté à la communauté, c'est-à-dire à nous, hein, 100 000 euros. Donc il y a eu quand même une consultation publique par Internet où tout le monde a été averti pour que les gens se prononcent. Il y a 57 communes qui étaient concernées. Il y a eu 261 réponses qui se sont prononcées. Ça fait royalement 4 personnes par commune. Et ça a coûté 100 000 euros. Je ne pense pas que tu contestes ces chiffres. Donc, je trouve ça, enfin, nous trouvons ça quand même extraordinaire. Et après, en regardant d'un peu plus près quand même... Parce que là, il y a des frais annexes du SMAEB qui sont synthèse des dépenses, hein, ça vient du SMAEB, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Alors, observatoire de la biodiversité, examen périodique de la réserve de biosphère du Mont Ventoux, bon, tout ça, pourquoi pas. Gestion et valorisation des espaces naturels remarquables, plan paysage Ventoux, projet carbone, etc. Donc, tout ceci, c'est autour du Ventoux, on est bien d'accord.
Oui, sur le périmètre de...
D'accord. Il y a quand même, bon après il y a des frais qui sont inhérents au SMAEB. Carburant, péage, parking. 4 360 euros. Alors apparemment dans le Ventoux il n'y a pas encore de péage, il n'y a pas encore de parking payant. Je trouve que c'est quand même un peu bizarre. Après, je ne sais pas, il y a des gens qui sont responsables de ces chiffres. Je trouve quand même que c'est un gaspillage d'argent public qui est assez extraordinaire. Voilà. C'est la réflexion que nous faisons sur ce sujet. C'est pour ça que ces 400 000 euros, on a pris ça par la presse, tout à fait par hasard. C'était d'abord dans la revue de presse où vous l'aviez envoyé. Donc en creusant un peu plus, on s'aperçoit qu'un projet à l'arrêt coûte 400 000 euros, avec 4 personnes qui ont travaillé à temps plein toute l'année. Je trouve que c'est une dilapidation d'argent public phénoménale.
Voilà. Tout simplement. Pour votre avis, simplement la démarche parc, donc, à ce jour, c'est 30 centimes par habitant pour les communes.
Non, c'est 400 000 euros à la collectivité pour un projet à l'arrêt.
C'est 30 centimes par habitant, on se paye autre.
C'est les seigles qui paient le reste.
L'action, pardon non.
C'est les animaux qui paient le reste du montant. Là. Non, il faut pas exagérer. C'est le département qui finance, c'est la région, c'est les intercommunalités, c'est les communes. Il faut arrêter, c'est notre argent. Il faut arrêter que les élus se réfugient toujours, que c'est jamais nous. Non, ce sont les habitants qui paient.
Mais c'est qu'il y a une volonté évidente. C'est qu'il y a une volonté évidente des élus d'orienter leurs finances comme ils veulent.
Voilà. Tu es vice-président du SMAEF. Il n'y a pas de problème. Il faut assumer ses choix. Je pense que tu participes aux décisions et aux choix qui sont faits. Voilà, c'est tout.
Absolument.
C'est la réflexion qu'on fait sur le sujet. Donc on a toujours dit que le parc coûterait très cher. On en est aux prémices. Ça a déjà coûté plusieurs millions d'euros depuis qu'on en parle. Donc voilà, c'est tout. Moi, j'avertis, tout simplement. C'est que le commencement.
C'est sûr que si on compte tout au niveau communal, d'accord, mais si la région, le financement, le département, c'est quand même nous aussi.
Voilà, c'est je dis ça émane de deux choix politiques.
Oui, mais il faudra l'assumer.
C'est un choix politique, je veux dire, et dans le pire des cas, le SMAEB n'est que le bras armé.
On sait.
Oui, le SMAEB est l'exécutant, si vous voulez, de la volonté. Mais vous l'avez vu dans dans un acte. Vous avez vu effectivement les participations des deux instances précitées. Et les communes, donc, les communes où je vous mets ça, on est d'accord là-dessus, donc c'est 30 centimes
de participation. Il y a quand même, il faut pas prendre un jambon pour des imbéciles. Lorsqu'on fait ce plan paysage, où on montre les photos magnifiques de deux villages du coin, du Ventoux, des oliviers, des vignes, à côté, on met l'entrée d'un village, comme il y en a malheureusement de partout, avec des lignes électriques, des poteaux, des poubelles. Après, on montre une serre agricole, ma foi, ça fait partie du paysage tout de même. Et qu'après, on nous dit, les gens, finalement, préfèrent les beaux paysages. Je veux dire, c'est se foutre du monde. Non. Et ça a coûté 100 000 euros pour faire ça. Et il y a eu la restitution, quand même, chez nous, le 22 ou le 23 février, au stade d'Anaïs. Alors, il faut bien, à un moment donné, assumer ce qu'on fait. C'est le SMAEF qui a décidé de faire ça. Ça a coûté 100 000 euros à la collectivité. Il faut bien le savoir. Pour faire 8 ou 10 photos. Et presque, c'est celui qui prend les photos qui dit « Regardez le beau paysage, c'est grâce à moi. » Non, il faut arrêter.
C'est pas exactement ça. C'est pas exactement de cette manière que ça se passe. Pour constituer un parc, vous avez besoin de différents éléments qui doivent être au dossier.
Vous pouvez aller sur le site du SMAEB, je vous invite à y aller.
Bien sûr, mais ce sont des passages obligés, de la même manière que quand on construit, il te faut une étude de sol, il te faut... Quand tu installes un
assainissement... Mais que ça se fasse, c'est pas gênant.
Pour
prendre 8 photos sur le territoire, il faut un jour. Il faut une peine de voiture. Et pour faire une consultation sur Internet, il y a demi-journée de travail. 100 000 euros, ça fait cher à journée.
Il y a beaucoup de choses qu'il faut aller plus vite et à moindre coût.
Non, c'est exagéré.
Soyez gentils quand même. Je pense que c'est de l'ironie que vous faites quand vous dites qu'il y a des frais de parking et il y a des frais d'autoroute.
C'est écrit.
Mais c'est encore heureux que ce soit écrit. Mais bien sûr, c'est moi qui me l'ai passé. Et c'est encore heureux. Vous ne pensez pas que le conseil régional il siège à Marseille et que quand on s'y rend.
Ce sont les employés du SMAEB qui ont fait le. Ben, ils ont travaillé à 4 pour faire ça toute l'année, quand même. Je suppose que de temps en temps, ils ont pris leur voiture. Sinon, dans un bureau,
ça se déplaçait.
Ils ont des ennuis.
On rentre. Si ça coûtait pas si cher, ça serait dans le burlesque. Mais bon, comme ça coûte cher.
Je pense qu'à un moment donné, c'est encore un peu tôt, mais j'espère qu'il y aura un débat sur la commune par rapport au
parc.
L'avant-projet de charte est sorti cette semaine. Je l'ai feuilleté rapide, mais je n'ai pas eu le temps. Il y a une mesure qui m'inquiète beaucoup, c'est celle sur l'eau, la problématique de la réservation de la ressource en eau. Là, c'est inquiétant. Et je pense que là, il faut qu'on creuse un petit peu, qu'on ait un débat sur cette question-là. Il y en a d'autres après, dans le parc. Mais voilà. Donc, du coup, pour avoir les chiffres, notamment les budgets, il faudra attendre la rentrée, m'a-t-on dit, parce que j'étais au SMAES sur ces questions-là.
On n'a toujours pas eu les chiffrages.
Il faudra attendre octobre, novembre, pour avoir les budgets et les éléments chiffrés du parc. Voilà. Ouais. Du projet de parc.
Quels éléments?
Le règlement du syndicat qui va gérer le parc et les budgets. Voilà. Le règlement, notamment avec la question de.
Le budget prévisionnel, il a été.
De la gouvernance. Le prévisionnel, oui, il va être affiné, retravaillé, etc.
Ah ben oui, ben, en général, balance. Enfin,
du point de vue plus pratique, les communes sont positionnées, d'après ce que j'ai pu comprendre, au printemps l'année prochaine.
Début d'année.
Au niveau du calendrier.
Courant 2019.
Courant 2019.
Alors, début. Début.
De mars.
Je sais que le conseil départemental doit rendre un avis le 29 juin.
Oui.
Ça c'est sûr.
Régional.
Régional.
Régional, ah oui, pardon, le
président.
Qu'est-ce que vous enquête publique début 2019.
D'accord. Et ça revient dans les communes donc pour le vote à partir de mars, comme ça, de mars à juin.
Et dans un premier temps, donc ça fait donc ça passe par le conseil régional, transmis au préfet de région qui fait remonter au CNEPN à Paris, qui renvoie modification du projet suite à la mise intermédiaire du ministre. La région valide à nouveau les modifications qui lui ont été suggérées ou imposées. Et donc lancement de l'enquête publique. Remise du rapport de l'enquête publique, mais là on est en 2019, et consultation des collectivités territoriales en avril, l'été 2019. Ce qui avait été dit, c'est que sur un schéma idéal, ça se terminerait en 2020. Maintenant, on a tous vécu des expériences qui duraient sur un grand nombre de projets, donc... Là, il y a une théorique dont la première épreuve, c'est le conseil régional.
Par rapport au vote des communes, donc, on doit organiser une consultation. C'était pour savoir...
Une enquête publique est prévue.
Donc, au niveau de la commune.
On
doit organiser une consultation pour l'adhésion ou pas. C'était pour savoir si tu avais déjà prévu un calendrier ou pas, par rapport à ça. Et on te proposait par la même occasion de l'aide si tu en avais besoin pour organiser la consultation.
Dans l'hypothèse où j'aurais besoin d'aide pour organiser la consultation, je vous remercie de votre...
Le médiateur, dans son rapport, le médiateur qui avait été nommé par la région, dans son rapport, quand même, préconise une consultation de la population pour les communes autour du massif. Hein.
Ouais.
Tu l'as peut-être pas lu, mais...
Oui, vous pourrez suivre, parce que vous avez beaucoup de documents, vous êtes bien placé, de toute façon.
Bien placé.
Mais
bon, notre proposition,
c'est toujours. Merci. Hein.
Voilà. Je vous remercie de votre investissement.
Encore une petite dernière. Il y a eu la nuit du 7 ou 8 mai plusieurs pneus crevés. Avait été averti la mairie de la rue qui va de l'église au cimetière. Il y a eu des dégradations de véhicules. Vous avez la police municipale
Si déjà il faut que les gens ils aillent porter plainte à la gendarmerie.
Il y en a qui sont allés, c'est sûr.
Donc
la nuit du 7 ou 8 mai.
La gendarmerie est venue voir la police pour voir si on avait de la vidéosurveillance dans ces zones.
Donc, vous êtes au courant.
Oui, oui, on est au courant. Hein.
Ah, moi, non. Moi, je ne savais pas.
Oui, non.
Non, mais il y a eu 7 ou 8 voitures dégradées. Ouais. Hein, voilà.
Mais malheureusement, dans cette zone-là, on n'a pas de vidéosurveillance, donc on n'a pas tout.
Donc
pas
ça, je sais bien, mais c'est pour savoir si vous en y étiez inquiété, voir si s'il y avait eu d'autres problèmes de ce genre dans le quartier. Voilà, c'est tout. Hein. Nous, c'est les doléances qu'on a des habitants du quartier qui nous ont interpellés sur le sujet, c'est tout.
Non, non, on n'a pas beaucoup.
C'est tout vite, pneus crevés, rétroviseur cassé,
voiture vandalisée.
Le visage est la mienne. Le visage est la mienne.
Oui, non, non, mais bon. Voilà.
C'est des fêtes qui ne sont, sont pas quotidiennes. Non, mais bon, c'est, bon ça, c'est pas, ça se passe de temps en temps, toutes les 3-4 ans, on a droit à ça. C'est.
Non, mais c'est bien de le dire parce que tout le monde
est au courant. Mais tu vois, tu n'étais pas au courant. Hein.
Merde. Voilà.
Et oui, mais quand tu délègues, c'est la preuve. Je...
Oui, non, mais c'est pas une accusation.
Ah, ben non.
Merci, c'est bon.
J'ai déjà donné pour les pneus crevés, mais c'était les biens. J'en suis à 7 pour le moment, pourvu que ça reste là.
Bien, écoutez, s'il n'y a rien de particulier, merci de votre présence. Est-ce qu'il y a quelques manifestations particulières à signaler? Inauguration du kiosque au livre,
vendredi
soir, 19h. Et le fauteuil. Bien, donc, nous clôturons les débats. Donc à 20h30.